prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème, l'homme qui marchait dans l'obscurité.
Si vous voulez bien, un texte de l'évangile de Luc, voilà. On va prendre ce passage que beaucoup de lecteurs de la Bible connaissent, mais j'aimerais justement y apporter un commentaire. Donc, il s'agit de Luc, chapitre 12. Alors, le verset 13. Luc, chapitre 12, verset 13. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice. » Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance ? Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. » Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il y a un autre passage dans la Bible qui nous dit ceci, je le cite tout simplement comme cela. C'est Paul qui écrit cela à des chrétiens de la ville d'Éphèse. Il dira ceci en parlant des hommes qui sont en dehors de l'espérance qui est en Dieu. Il dira, mais ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Alors je voudrais mettre en rapport ou en parallèle eh bien, ce texte que nous avons lu il y a un instant, c'est une parabole que Jésus nous laisse, et puis ce principe où, en quelque sorte, ce principe qui veut dire que la lumière, elle vient de Dieu, la connaissance, elle vient de Dieu, la sagesse vient de Dieu, je dirais même plus la vie vient de Dieu, et en dehors de celui qui est le créateur de toutes choses, mais qui plus est aussi notre sauveur, alors il ne peut pas y avoir de vie digne de ce nom. Et à travers ce que nous allons partager ensemble, je dirais que l'homme, ce fameux riche insensé, c'est comme ça qu'il doit être titré dans votre Bible, c'est comme ça qu'il est intitulé, est victime, enfin victime, je ne sais pas, mais il fait la démonstration d'un aveuglement, et je dirais, et nous allons le voir au fur et à mesure, d'un septuple aveuglement. Il est sept fois aveugle. Et je crois qu'il ressemble à plusieurs égards, eh bien en quelque sorte, à ce qui se passe dans notre monde, dans le comportement qu'il donne. Eh bien, je crois que c'est vrai que quand Jésus met cela en parabole en disant, voilà, il y avait un homme qui avait de grandes richesses, qui avait ceci, qui faisait cela, etc., etc., je crois que ça a tout à fait la caractéristique, eh bien, probablement de nos contemporains, de nos concitoyens ici, dans notre temps, en ce 21e siècle. Alors, la première chose que je dirais, ce qui le caractérise et qui force un petit peu notre réflexion cet après-midi, la première chose, c'est que c'est un homme, on va le dire, qui a les yeux fermés sur la réalité de l'existence de Dieu. Ça, c'est la première chose. Je pense qu'il ne devait pas avoir des problèmes de vue, mais néanmoins, il ne voyait pas. c'est un drame de pouvoir dire je suis un bienvoyant, mais qui passe à côté de l'essentiel et à côté de, finalement, de ce pourquoi nous sommes en vie. On apprend dans notre texte qu'il était très riche, mais on s'aperçoit très vite qu'à aucun moment il éprouve le sentiment de la reconnaissance envers Dieu. Ouais. Il a beaucoup de choses. Quand on n'a rien, peut-être qu'on peut se poser des questions. Mais quand on a beaucoup de choses, quand on a beaucoup dans la vie, que la vie nous a donné beaucoup, si on peut parler comme ça, il lui manquait véritablement ce positionnement dans son cœur que l'on appelle la gratitude, ou la reconnaissance, et d'abord la reconnaissance envers Dieu. On peut considérer que c'était un juif riche, un juif qui s'était enrichi, un juif qui était censé de connaître, finalement, celui qui était à l'origine de cette abondance, de son bien-être, mais il l'ignore complètement. Il le méconnaît complètement, parce qu'il n'a pas trouvé le sens, il n'a pas trouvé la réalité des choses auprès de ce Dieu qui est à la fois créateur et le donateur de la vie et de tout ce qui l'accompagne. Et il est aveugle en raison de cela. C'est normal, me direz-vous, c'est normal et naturel qu'il soit riche pour lui, qu'il soit en bonne santé et considéré. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui ont quelques moyens d'existence ou de grands moyens d'existence, et pour eux c'est normal. Ils ne comprennent pas que les autres ne soient pas comme eux, tout simplement. Et une question qui pourrait être posée, c'est comment aurait-il réagi, c'est intéressant, comment aurait-il réagi s'il avait été pauvre, malade et défavorisé? Moi, je vais vous dire comment il aurait réagi. C'est tout simple, peut-être aurait-il tenu Dieu pour responsable. Il aurait dit, les autres ont ceci, moi je n'ai rien, donc il y a quand même un problème. Parce que vous savez quand les hommes souffrent, la première réaction qu'ils peuvent avoir, c'est de commencer à imputer la responsabilité de leur infortune à Dieu. C'est Dieu qui est responsable en tout, de toute manière, c'est toujours Dieu qui est coupable. Mais quand tout va bien, on ne dit rien. Et c'est peut-être là le problème de ne rien dire. Parce qu'il y aurait peut-être quelque chose à dire quand on est en bonne santé, quand on est bien, quand on a les moyens, quand on a ceci et cela. La moindre des choses, ça serait de dire tout simplement « Merci Seigneur ». Mais lui, il ne sait pas. Il n'avait même pas envie de faire l'effort de savoir d'où ça vient tout cela. Peut-être se dira-t-il, mais c'est ma main et mon pouvoir et mon travail et mon intelligence qui m'ont acquis tout cela. Vous savez, la Bible nous en parle et je crois qu'il faut faire attention à ce raisonnement. Dans l'aisance, et là nous en arrivons vraiment, probablement au cliché de notre monde d'aujourd'hui, de notre actualité, dans l'aisance, dans le confort, quand les hommes ne ressentent aucune souffrance ou aucune douleur, quand il y a un certain bonheur ou un bonheur certain, l'homme d'aujourd'hui, comme hier, oublie Dieu. Et à ce moment-là, n'est-il pas profondément aveugle sur la vie, sur sa vie, de ce qu'il est et de ce qu'il a? Et c'est bien dommage. C'est vraiment le monde dans lequel on est aujourd'hui. Où les gens se disent, mais ne me parlez pas de Dieu, à quoi ça sert Dieu? Mais vous allez me dire, mais et Dieu existe-t-il? Moi, je n'ai pas besoin de Dieu dans ma vie. Qu'est-ce que vous voulez? Je peux m'en passer allègrement. Je peux m'en passer formidablement parce que je ne ressens pas ce besoin. C'est notre société aujourd'hui. Alors, on a déjà une première idée de ce que peut être l'aveuglement de cet homme. Écoutez, simplement, dans Corinthiens, il nous est donné cette petite réflexion. Et au chapitre 4, laissez-moi chercher, vous ne tracassez pas, je vais vous donner la citation, vous la connaissez. Et c'est toujours Paul qui dira ceci pour interpeller les gens de son temps, comme il nous interpelle toujours, parce que la parole de Dieu est intemporelle. Alors, il dit ceci, mais qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Je crois qu'il est bon, quelquefois, de faire le point de ce que nous sommes, de ce que nous avons. Et cet homme n'a pas su le faire, mais de dire, eh bien, Seigneur, je crois que quand même, au-dessus de moi, au-dessus de ce monde, malgré tout ce que je peux disposer et qui me rend heureux, alors, Seigneur, je voudrais quand même croire qu'il y a un Dieu dans le ciel et moi, je voudrais remercier ce Dieu. Au moins te dire le mot le plus simple que l'on apprend déjà aux enfants, « Merci, Seigneur », tout simplement. Ça, c'est le premier aveuglement. Le deuxième, c'est que et c'est la conséquence naturellement de cette fermeture de cœur, comme nous avons vu, c'est que c'est un homme qui ferme volontairement les yeux sur lui-même et sur son présent. Sur sa personne, non pas sur son environnement, heureux, mais sur deux choses. D'abord lui-même, et ensuite, eh bien, sur la réalité d'aujourd'hui, tout simplement. Parce que c'est un individu, c'est un personnage qui en veut toujours davantage. Et là, ça ressemble aussi tout à fait à notre monde. Vous savez, les gens ne sont jamais satisfaits. Ils sont toujours mécontents. Ils sont toujours à murmurer et à regarder ce que l'autre a, etc. Vous connaissez le refrain, c'est continuel. Et il en veut toujours davantage, donc, et il croit qu'il n'en a pas encore assez. Moi, je ne sais pas comment vous vivez et si vous vous contentez de ce que vous avez. C'est un grand bien, nous dit la Bible, de se contenter de ce que l'on a, c'est vrai, pour être heureux, pour pouvoir le goûter, pour pouvoir aussi remercier le Seigneur, on l'a dit il y a un instant. Mais il se dit, voilà, moi, mon collègue à côté, il a ceci que je n'ai pas. Et puis, j'aimerais bien avoir ceci pour être encore en tête du peloton et toujours être remarqué, pour être quelqu'un qui, eh bien, véritablement, c'est, nous pourrions dire, manœuvrer sa barque. Alors, on s'aperçoit que quand on lit le texte et si on décode un petit peu ce que Jésus a voulu nous dire, on s'aperçoit très rapidement que la vie de cet homme est une course folle à la possession. Oui. Ouais. Il veut avoir le plus possible de choses. Et que de projets de construction il a, puisqu'il nous parle qu'il agrandirait ses greniers. Il a un projet de mettre à bas ses granges actuelles et d'en construire de nouvelles. Des espaces toujours plus grands. Et son obsession, comme l'obsession des hommes d'aujourd'hui, c'est toujours plus. Ouais. On veut toujours davantage et toujours plus. On n'en a jamais assez. Et c'est la fuite en avant. Mais ce n'est certainement pas eh bien, le gage du bonheur. Parce que quand on voit tous les gens qui sont malheureux, qui sont, excusez-moi l'expression, c'est un petit peu trivial, mais pleins à l'extérieur, mais vides, profondément vides, un désert à l'intérieur, qui se dessèche. Et conséquence de neurasthénie, de dépression, de toutes sortes de choses qui quelquefois les amènent, même s'ils possèdent tous les biens de la terre, en arriver à désespérer de leur vie et mettre un terme à leur existence. C'est terrible, c'est notre société, hein, on le comprend cela. Alors c'est la fuite en avant. Et vous savez que dans toutes les fuites, eh bien, on y laisse toujours quelque chose. C'est quand on fuit, on va vite. Quand on fuit, on se précipite. Et on n'a pas le temps de tout emporter. Vous savez, le jour où on partira, on n'emmènera rien du tout. Hein. Je ne sais pas si ça sera en fuite ou tranquillement. Mais toujours est-il qu'on perd toujours quelque chose dans une fuite. Vous connaissez l'histoire de Lot, dans le livre de la Genèse, au chapitre 19. Eh bien, lui, il est parti en fuite. Il était descendu dans la ville de Sodome et Gomorre pour se faire une richesse qui s'est réalisée parce qu'il était très, très, très riche. Et quand il a dû partir quelque temps après, il n'a rien emmené. Il a tout laissé derrière lui. C'est un véritable désastre. Tout a été brûlé par le feu. Tout a été détruit par le feu. Il a perdu sa famille. Il a perdu sa santé probablement. Il a perdu sa fille, sa vie. Et il a perdu aussi sa femme. Alors, cet homme dont nous parlons, dont Jésus nous parle, c'est un aveugle. Oui. Deux fois aveugle. Il est aveugle sur la réalité. Sur la réalité du présent, sur la réalité de lui-même. Et cette réalité, elle n'a qu'un nom, c'est son âme. Les gens sont tout à fait conscients de leur corps, de leur être, leur dimension physique. Mais en ce qui concerne l'âme, la grande inconnue. Aujourd'hui, est-ce qu'on parle de l'âme? C'est un mot même qui est banni. On le laisse un petit peu pour le côté religieux, son âme. Hein? Et pourtant, c'est quand même une réalité dans la Bible. Quelle insatisfaction de vouloir tout dévorer, de vouloir tout avoir. Quelle avidité dévorante. C'est le livre des Proverbes. J'aime bien émailler la prédication par quelques citations. Ça nous permet de voir que la Bible, elle est cohérente dans ce qu'elle dit du début jusqu'à la fin. Et dans le livre des Proverbes, au chapitre 30 et au verset 15, il est dit ceci. Écoutez, la comparaison est assez particulière parce que vous connaissez cette petite bête, la sangsue. Vous en avez chez vous, pour les prises de sang, non? La sangsue, eh bien vous savez, elle a deux filles, ça vous le saviez pas non plus. Hein. Elle a deux filles. Et les petites, elles disent « donne, donne ». Oui, donne, donne. Trois choses sont insatiables. Quatre choses ne disent jamais assez. Le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est pas rassasiée d'eau et le feu qui ne dit jamais assez. Et vous savez, les hommes sont un peu dans cette configuration. Ils n'en ont jamais assez. Il leur faut toujours, toujours donne, donne, donne. Et quand on ne donne pas, on prend. Ou on vole. Mais ça, c'est aussi, eh bien, ce que nous connaissons. Le troisième aveuglement, il se porte sur cette réflexion. Le personnage de la parabole a aussi les yeux fermés sur ce pourquoi il vit. Il vit. Je vis. Mais je ne sais pas pourquoi. Vous savez pourquoi vous vivez ? Oui. Alors on vit, c'est vrai, pour les choses de la terre, dans ce sens que nous avons une famille, nous avons des enfants, nous voulons les voir grandir, nous voulons leur donner une éducation, nous vivons pour... naturellement. Ça, c'est tout à fait légitime et normal. Mais il y a encore autre chose, il y a encore quelque chose de beaucoup plus haut, beaucoup plus beau, beaucoup plus grand. Et lui, on lui pose la question, pourquoi tu vis ? Ben, je vis pour mes grands, je vis pour mes greniers, je vis pour ceci, je vis pour cela, je vis pour mon argent. Ah, je passe voir mon compte en banque toutes les semaines, vous savez. J'ai très bon rapport avec mon banquier, à vous, mais c'est normal. Parce que lui-même vit en égoïste. Il vit en avare. Vous savez que Jésus nous dit, il dit ceci, « Ô homme qui m'a établi pour être votre juge ou pour votre partage, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. » Vous savez ce que c'est que l'avarice ? C'est quand vous avez mal aux jambes et que vous allez chez le phlébologue. Hein ? C'est ça l'avarice. Ah oui, excusez-moi, non. J'ai pas mes lunettes. Donc, ça c'est un vilain défaut, on dit l'avarice. C'est les gens qui... prennent et qui essaient d'agripper tout ce qui passe autour d'eux. Donc, il ne sait pas pourquoi il vit uniquement pour les choses qui ont trait à son égoïsme et à l'avarice, mais pas pour les autres. Dont le maître mot, qu'il ne connaît pas, c'est partager, faire profiter, simplement aider autrui. D'ailleurs, quand Jésus nous donne cette parabole, et quand il fait parler ce personnage, remarquez, la multiplication, je, ou encore je, moi, et encore moi, et toujours moi. On l'a vu ensuite. Hein. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai mes récoltes, je dirai à mon âme. Il ne parle que de lui, tout revient à lui-même. C'est un, comment on dit, un égo centrique. Centriste. Moi et moi. Comme s'il était seul au monde. Ouais. Et vous avez des gens que ils pensent qu'ils sont tout seuls au monde. Il n'y a rien d'autre autour d'eux. C'est leur vie. Ils sont sur le trône et ils règnent. Alors sans le savoir, cet homme, excusez-moi, hein, mais cet homme est un voleur. Vous allez me dire, mais un voleur, c'était probablement le fruit de son travail honnête. Je ne conteste pas. Un homme qui a travaillé, qui a peut-être monté son entreprise à la force du poignet qui s'est saigné, comme on dit, pour faire ce qu'il a fait et arriver là où il en est rendu. Mais néanmoins, je voudrais quand même dire que c'est un voleur, c'est un accaparateur de biens de la terre, un profiteur qui s'ignore et un détourneur de bénédiction. Parce que quand on reçoit la grande joie, la joie de Dieu, la joie de ceux qui sont autour et qui reçoivent, c'est justement, eh bien, de pouvoir être et mettre à la disposition ces bénédictions et les donner aux autres. Parce que, vous savez, tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Vous connaissez ça, c'est aussi dans la Bible. Et à partir du moment où nous recevons, eh bien, nous avons aussi le contentement de donner. C'est l'apôtre Paul dans le livre des Actes qui dira ceci, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Maintenant, quand vous... Voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Mais quand même, c'est une vérité, c'est une réalité. Et c'est vrai que dans celui qui a cette espérance en Dieu, celui qui est éclairé par la connaissance de Dieu, eh bien c'est vrai qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand on peut faire plaisir, quand on peut partager, quand on sent que quelqu'un est dans la misère et dans la peine, à travers pas forcément des choses purement matérielles, mais quelquefois à travers de bonnes paroles, à travers une consolation, à travers des mots qui vont toucher le cœur, qui vont faire du bien, eh bien c'est ça justement partager. Alors, je dis que cet homme est trois fois aveugle, parce que tout tourne autour de lui, comme si tout le reste n'existait pas. Et d'autant plus grande est sa culpabilité, il est coupable, mais est-ce qu'il veut l'entendre ? Dans le livre d'Ésaïe, toujours dans cette petite recherche que nous faisons, écoutez, c'est assez typique, parce que moi j'aime bien ce texte, parce qu'il montre quand même les turpitudes de l'homme, et la manière de raisonner qui ramène tout à lui-même. Dans Ésaïe, chapitre 5, verset 8, il est dit, c'est pas une bénédiction, vous allez voir, malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Vous vous rendez compte, hein? Hey, vous savez, ça existe ça, hein? Le verset 11 nous dit, malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes et qui bien avant la nuit sont échauffés par le vin. Peut-être que c'est le résultat de la première situation. Au verset 18, on va aller un peu plus loin, il est dit ceci, « Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice et le péché comme avec les traits d'un char. » Verset 20 maintenant, « Malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Et le verset 23, « Qui justifie le coupable pour un présent et qui enlève aux innocents leurs droits. » Alors vous allez me dire, mais pourquoi tous ces textes ? Parce que finalement, ça rentre dans le cadre d'une personne, d'une personnalité, d'une manière de vivre, d'une mentalité où tout est ramené à soi-même. Ouais. Tout est ramené à lui-même, à cet homme. Cet individu, en continuant, se fourvoie dans ses objectifs existentiels. Vous savez que travailler est un noble but dans la vie. Et c'est vrai que l'oisiveté, c'est tout à fait négatif pour l'homme. Travailler, c'est bien, mais pourquoi ? Alors vous allez me dire, on trouvera toujours des applications à notre travail. Pour quelle finalité ? Si c'est pour amasser, si c'est pour engranger, si c'est pour tésauriser, alors à quoi ça sert ? Notre individu veut ignorer que son labeur incessant va le tuer. Oui, ça, il ne veut pas y penser. Il se dit, je vais travailler jusqu'à la fin. Je suis content parce qu'on a mis la retraite à 62 ans, je vais travailler un peu plus. Ça ne vous réjouit pas, hein? Eh oui. J'irai jusqu'au bout. Oui, il ne veut pas penser que de toute façon, il va mourir à un moment ou à un autre. Alors, il se donne complètement et que son âme, son être a un immense besoin, quelquefois tout simplement de se reposer, de faire une pause, de s'arrêter, de souffler et de réfléchir. Et c'est bien aussi la mentalité de notre temps. Vous savez, les gens ne s'arrêtent plus. Alors, est-ce que c'est le souci de l'argent ? Est-ce que c'est de l'acquisition d'une maison ou des voitures ou ceci et cela ? Ils ne s'arrêtent pas. Mais vous savez, qu'est-ce que tout cela si on y perd la santé, si on ne pense pas à s'entretenir soi-même? Il y a des gens qui, quelquefois, malheureusement, après avoir travaillé d'arrache-pied, ont été frappés comme ça, violemment, par une maladie, ont été emportés. Et on se dit, mais quelle tristesse d'avoir pas su profiter davantage, peut-être, des bons moments de la vie. Et les gens qui ne s'arrêtent jamais, hein, jour et nuit, hein, sont des travailleurs, ouais, bien sûr. Mais dans quel sens et pourquoi ? S'arrêter pour réfléchir. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde endiablé, un monde qui est là mené par je ne sais quel souffle intrépide, et tout cela pour ne pas réfléchir. Vous savez, on aura toujours le temps de réfléchir si quelquefois nous allons trop loin, si nous poussons notre corps trop loin, si il nous arrive un accident et que nous sommes alités pendant des semaines ou voire des mois. Là, nous aurons le temps de réfléchir, mais il aurait mieux valu réfléchir avant et prendre toutes les précautions utiles pour ne pas en arriver peut-être là, justement. C'est terrible, ça. Aller le plus vite possible, notre société nous le démontre, pour en avoir le plus possible. Connaissez le slogan « Travaillez plus ». Bon, je ne vais pas insister parce que vous allez l'entendre encore en 2012. Voilà. Et on s'aperçoit que le résultat est décevant. Hein. C'est ça ce qui est terrible. Le résultat est d'autant plus décevant et improductif. Parce que ce n'est pas le résultat qui est escompté. Et qu'est-ce que ça donne tout cela ? Quand on est dans le surmenage, quand on est dans le stress, dans les rivalités, la comparaison, quand on est dans cette course pour être le premier, toujours le premier, il y aura toujours un quelqu'un qui va nous doubler à un moment donné. Hein. Ça, c'est clair. On ne sera pas toujours le meilleur, et tout le temps. Et on en arrive quelquefois eh bien, à des épuisements, à des fatigues, à des dépressions. Et cet homme était aveugle sur cette réalité. Il se disait, moi j'ai la force, moi j'ai les moyens, j'irai jusqu'au bout. Ben oui, vous allez voir qu'il va avoir une crise cardiaque. Enfin, il n'est pas dit que Jésus a dit qu'il allait avoir une crise cardiaque. Mais enfin, on peut penser qu'il est parti quand même très rapidement, comme une crise cardiaque, par exemple. Vous savez, laissez-moi vous dire aussi que l'homme est malade, faute de se reposer et de réfléchir, de prendre le temps pour faire des choses qui sont, eh bien là, saines et bonnes pour nous. Or, il n'a pas ou ne veut pas comprendre que le vrai repos commence par le repos du cœur, ouais, à l'intérieur. Notre corps a besoin de repos, mais Jésus nous invite dans cette réflexion, en comparaison avec l'homme de la parabole, eh bien, à rentrer dans ce repos du cœur. Repos du cœur, repos de la pensée, repos de l'esprit. Il y a des gens qui sont toujours en train de... Ils sont toujours agités dans leur tête, c'est pas possible. Ils passent d'une chose à une autre dès qu'ils en ont fini. Une, s'ils la finissent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent beaucoup de choses et qui ne finissent jamais. Ça, c'est aussi... Alors, ce repos du cœur, celui de l'âme, celui de l'esprit, eh bien, on ne le trouvera jamais dans l'évasion ou dans la fuite, comme on en a parlé il y a un instant, ou dans les trépidations. Mais il se trouve tout simplement... Et il se prend ce repos-là dans la présence de celui qui a dit, et vous connaissez, Matthieu chapitre 11, verset 28, vous connaissez ? Vous avez déjà lu la Bible, non ? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Voilà. Cet homme n'a jamais voulu comprendre cela. Il était quatre fois aveugle. Il est aussi aveugle une cinquième fois, parce que sa cécité est une cécité délibérée sur l'échéance inéluctable de toute vie humaine. Il s'était imaginé qu'il pourrait maîtriser son souffle et avoir du temps, avoir encore du temps, avoir de nombreuses années à vivre. Et il s'était dit, si Dieu existe, j'aurai toujours moyen au dernier moment. Je le convoquerai dans mon bureau, on s'arrangera. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. C'est Dieu qui nous convoque, c'est pas nous qui le convoquons. La religion nous a appris à convoquer Dieu. Dis, Seigneur, hein, je t'ai oublié pendant 80 ans de ma vie, mais là, ça va mal, alors tu viens, tu descends parce que j'ai quelque chose à te demander, et tu fais vite. Hein. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est Dieu qui va le convoquer. Et lui n'avait jamais pensé que eh bien, ça pouvait finir, et qu'il s'était, avec peut-être son... sa réputation, cette réputation d'homme d'affaires, ses capacités, son argent, qu'il pourrait maîtriser son souffle, même encore aujourd'hui. Avec toutes les capacités médicales, avec toutes ces choses que les hommes ont mis en lumière et qui sont véritablement d'un grand service pour l'humanité. Ben, vous savez, quand le jour il faut partir, même avec la science et les techniques les plus sophistiquées, quand il faut partir, il faut partir. Hein. Qu'on ait de l'argent ou pas. Que l'on ait un bon médecin, une bonne clinique ou tout ce que voudrait, il faut partir. Et lui n'avait pas pensé à ça, il refusait de l'y penser. Et son raisonnement est d'autant plus téméraire et insouciant parce qu'il se dit ceci, écoutez bien, il parle à lui-même, il parle tout à lui-même de toute façon. Il dit ceci, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Il s'était dit, de toute façon, la mort, elle arrivera. Oh, on ne veut pas y penser. Il y a combien de gens ne veulent pas penser à la mort et au départ ? C'est même des mots que l'on a bannis de notre vocabulaire. On ne dit plus aujourd'hui, il est mort. On dit, il est parti. Voilà, c'est tout. On dit des choses comme ça, on a diminué, on a atténué, on a édulcoré le sens des mots qui disent pourtant la réalité de notre de notre existence humaine. C'est pourtant cela. Alors il se dit, mais puisque tu as des biens en réserve pour plusieurs années, mais qu'est-ce qu'il s'était imaginé? Qu'est-ce qu'il pouvait penser? Mais il a raison de dire « en réserve ». Parce que de quelles réserves s'agit-il? Quelles sont les réserves que nous faisons, nous, personnellement? Un enfant de Dieu, un chrétien, un homme de foi, un homme qui a l'espérance en Dieu, a des réserves. Vous connaissez l'histoire des vierges folles et des vierges sages. Il nous est dit qu'elles ont toutes les 10 une lampe. Mais ce n'est pas le tout d'avoir une lampe, il faut avoir de l'huile dans la lampe. Parce que vous pouvez avoir la lampe et être dans l'obscurité. Moi, l'image de la lampe, c'est l'image de la vie. Mais s'il n'y a pas l'huile pour alimenter la vie, cette huile de la foi, cette huile du Saint-Esprit, cette huile qui est la vie de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes, et ça sert à quoi? Alors il avait des réserves, il se dit j'ai des réserves, mais ce n'étaient pas des bonnes réserves, c'était des fausses réserves, et des réserves qui étaient inopérantes. Il était vide. Il était vide. Quand il est arrivé bébé sur la terre, il est arrivé les mains vides. Il a rempli ses mains pendant son existence et il oublie que quand il partira de l'autre côté, il partira aussi avec les mains vides. Vous n'avez jamais vu de convoi funèbre avec un camion de déménagement derrière. Ça, vous le savez. Hein. Parce qu'on laisse tout. Hein. On laisse tout. Il vivait tout simplement comme si la mort était réservée seulement aux autres, mais pas à lui. Il y a eu un slogan pendant un moment, là, je ne sais pas si sur la sécurité sociale, ça n'arrive pas qu'aux autres. Vous savez, sur les accidents de la route. Et c'est vrai que ça n'arrive pas qu'aux autres. Parce que on est des millions et des millions à circuler sur les routes hein, de notre pays. Mais on se dit, oui, j'ai appris que mon voisin ou quelqu'un, il y a eu un accident, un mortel, il est parti, il est disparu, il est mort. Mais ce n'est pas ça. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Cet homme nous laisse entendre Jésus avait tout prévu dans ses affaires. Il avait réglé toutes choses. Il avait planifié son programme. Il avait probablement bien bouclé son héritage pour ceux qui étaient dans son entourage. Mais il avait toujours refusé de penser à l'échéance. Au moment fatidique, à l'inévitable, qu'un jour il lui faudrait partir, tout quitter. Et il avait tout simplement, comme on le voit encore aujourd'hui, la tactique si connue de l'autruche. Vous savez ce que ça veut dire, la tactique de l'autruche? Elle se met la tête dans le sable, et quand vous la voyez, elle a la tête dans le sable parce qu'elle ne veut pas voir le mal, elle ne veut pas voir le danger, mais quand vous la regardez par derrière, elle a... Ça, c'est digne d'un dessin animé. Hein. Voilà. Et pourtant, Jésus nous dit, et nous le rappelle, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, tout simplement? 5 fois aveugle, 6 fois aveugle. Tragique méprise de cet homme qui a les yeux clos. S'il était propriétaire de beaucoup de choses sur la terre, une chose essentielle lui échappait, il ne possédait pas sa vie. En d'autres termes, il ne possédait pas son âme, tout simplement. Il avait, durant son existence dans ce monde, gravement oublié ou voulu oublier qu'il existe une autre réalité, celle-là définitive, à laquelle tout être humain doit se préparer. Ça résonne encore à travers le message de la Bible. Dans le livre d'Amos, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ô homme, prépare-toi à la rencontre de ton Créateur. » Eh oui. Et comme un écho qui nous vient du livre des Hébreux, il est dit, il était donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Les hommes ne veulent pas y penser. Et pourquoi ne veulent-ils pas y penser? Parce que justement, il y a le jugement. Mais vous savez, il y a quelque chose de formidable à travers l'Évangile, c'est que l'Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est justement d'échapper au jugement. Et on s'aperçoit qu'en ne voulant pas, en se refusant d'y penser, on va vers le jugement. Alors que Dieu nous dit, mais réfléchissez, prépare-toi, puisque tu vas échapper, je te propose d'échapper au jugement. Et les gens, dans un réflexe qui est complètement incompréhensible, préfèrent finalement se mettre la tête dans le sable et de dire « non, non, on ne veut pas y penser ». Alors que la proposition est faite et elle retentit à travers tous les siècles par le message de l'Évangile, par tout simplement eh bien, ce que Dieu nous dit dans la Bible, précisément pour que nous évitions ce jugement. 6 fois, 7 fois, je termine. Cet homme, au moment de partir, avait les yeux et certainement les mains ouverts. Il ne pouvait plus rien faire. Mais s'il avait pu s'enrichir, s'il avait pu recueillir, s'il avait pu avoir beaucoup de choses dans ses mains, dans cette dimension temporelle, une chose qui était restée tout le temps de ce passage sur la terre, c'est que son cœur était resté imperméable, imperméable, je dis bien, à l'appel de Dieu. Sa perméabilité était pour l'argent, pour ses biens, pour ses maisons, pour sa réussite, pour son confort, pour son bien-être, tout ce que vous voudrez, mais imperméable à l'appel de l'éternité. Alors, simplement, je conclurai cette parole. Le ciel ou la terre. Nous sommes sur la terre, mais Dieu nous dit, il y a quelque chose de grand, beaucoup plus grand et de beaucoup plus beau, avec une valeur inestimable qui est le ciel. Alors, c'est le ciel ou la terre. Si nous choisissons la position de cet homme qui n'était que la terre, ça rime. Mais la terre, c'est aussi l'enfer. Ici-bas, et quand il n'y a pas le choix de Dieu et la réponse à cet appel d'éternité, alors on va employer le mot, parce que c'est un mot qui est aussi une réalité. À ce moment-là, eh bien, c'est de la terre à l'enfer. De la terre à l'enfer, pourquoi ? Pour ceux qui raisonnent comme cet homme, s'il n'y a pas de ciel, puisqu'il ne croyait pas au ciel. Il ne croyait pas à une autre dimension, il ne croyait pas à une autre position que Dieu donne aux hommes. Et ça s'appelle comment ça? C'est le contraire de la foi, ça s'appelle de l'incrédulité. Et l'incrédulité ne pourra jamais hériter le royaume de Dieu, puisque c'est par la foi que nous rentrons dans le salut et dans le royaume de Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible autrement. Dans le chapitre 23 de l'Évangile de Luc, et je terminerai sur cette dernière pensée, un homme qui, lui, n'est pas mort comme celui-là, mais il est mort dans une autre condition. Vous avez remarqué avec moi, il nous est dit, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Cet homme, visiblement, est mort de nuit, il est mort rapidement, il est mort sans rien préparer, sans rien penser, sans rien réfléchir. Si nous allons un peu plus loin, un autre homme qui se trouvait très proche de Jésus, dans une condition épouvantable, abominable, lui aussi était en passe de quitter cette terre et de partir, de mourir. Cet homme, c'était un brigand. Il était, je ne sais pas, à droite ou à gauche de Jésus, mais il était là. Et il mourait pour ses forfaits, il mourait pour ses fautes. Il y mourait parce qu'il était un homme qui avait fait le mal. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'au verset 40, Luc 23, 40, il nous est dit que ce bandit disait à son collègue qui était en train d'insulter Jésus qui était sur la croix, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. » On aurait bien voulu entendre cela de ce riche insensé. Son crime, c'était tout simplement d'avoir ignoré Dieu. Mais ce crime, c'était pas d'avoir tué quelqu'un d'autre, il s'était tué lui-même. Par refus de croire à l'existence de Dieu. Alors il dira, en parlant de Jésus, cet homme qui est sur la croix, en parlant de Jésus, mais Jésus n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Voilà la conclusion. Un homme qui n'avait jamais aussi pensé peut-être à l'existence de Dieu. Mais là, dans cette heure tragique, cette heure pathétique, cette heure de l'extrême, alors il se met à réfléchir. Et il se dit, « Mais je vais mourir perdu. » Et il ne veut pas mourir perdu. Il a été certainement touché par la sainteté de Jésus qu'il voyait souffrir sans rien dire. la douceur de Jésus dans cette agonie. À travers tout ce qu'il avait peut-être entendu dire de Jésus auparavant, il se retrouvait à côté de lui et il lui a fait cette demande. Parce que quand on demande à Dieu, il répond. Quand on demande d'être sauvé, Dieu va nous sauver. Quand on demande d'être pardonné, Dieu va nous pardonner. Quand on demande de rentrer dans son royaume, dans son paradis, dans son éternité, mais Dieu va nous sauver. Et là, in extremis, eh bien cet homme va se ressaisir et peut-être va-t-il voir, comme on le dit quelquefois, le film, le déroulement du film de sa vie en disant « mais tout ce que j'ai fait, c'est faux. Tout ce que j'ai fait, c'est une erreur. Tout ce que j'ai fait du mal. J'étais un criminel de sang, j'ai fait ceci et cela. » Mais il se dit « moi, je veux pas. C'est fini maintenant. C'est fini pour moi. » Alors il se tournera, il dira « mais souviens-toi de moi. » C'est une véritable repentance, c'est une prise de conscience. Ça ne lui était jamais arrivé dans son existence, mais là, il saisit les choses. Alors, quand tu viendras dans ton règne, et qu'est-ce que Jésus va lui dire ? Tu es un mécréant, tu es un bandit, alors tu vas rester sur la croix et tu vas mourir comme ça, comme un pauvre... Voilà. Non, non, Jésus lui dit tout simplement, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » On aurait aimé que le premier personnage dont nous avons parlé de la vie, tout à l'heure de sa vie, dise... Eh bien, Seigneur, c'est vrai que dans ma vie, j'ai eu beaucoup de choses. J'ai travaillé, mais j'ai eu beaucoup de choses. Tu m'as donné des biens, tu m'as béni, tu m'as donné une famille, tu m'as donné beaucoup de choses. Mais je permets, permets-moi, Seigneur, au moins, avant que je ne quitte ce monde, de te dire merci. De te dire merci. Vous savez que la reconnaissance, c'est la mémoire du cœur. Ça, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose de formidable. Alors, à la reconnaissance du cœur, à cette gratitude que nous avons vis-à-vis de Dieu, eh bien, inexorablement, à un moment ou à un autre, ça nous amène à lui, et de dire, eh bien, Seigneur, je suis perdu, sauve-moi. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui dit, mais tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Que Dieu nous bénisse cet après-midi, que Dieu nous donne sa grâce. Alors, nous allons prier quelques instants. Et pour vous qui entendez sa parole, pour ceux qui l'entendront d'une autre manière, peu importe. Mais toujours est-il, eh bien, nous allons demander au Seigneur qu'il nous donne de prendre les vraies valeurs. Et ne pas confondre entre les moyens de l'existence et les buts de l'existence. C'est deux choses différentes. Le Seigneur est venu pour nous sauver pour l'éternité. On va prier maintenant. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que ta parole reste ta parole et elle s'adresse aux hommes. Oui, Seigneur, aux hommes qui veulent bien ouvrir leur cœur, aux hommes qui ne pensent pas qu'à eux, aux hommes qui véritablement eh bien, réfléchissent. Parce qu'il y a nécessairement toute une histoire, un passé, un présent, mais il y a aussi devant nous un avenir qui comporte en effet un qualificatif. C'est un avenir éternel. Et nous ne voulons pas, Père éternel, en effet gagner le monde et perdre notre âme, perdre notre éternité. Je te demande, Seigneur, de visiter mes amis qui ont entendu, qui entendent ta parole. Et ainsi, Seigneur, de les amener à cette réflexion salvatrice, de les amener à cette position devant toi de dire, eh bien, Seigneur, avant qu'il ne soit trop tard, avant que nous soyons emportés comme, en effet, un fétu de paille, eh bien, Seigneur, tout simplement venir devant toi et te dire, mais Seigneur, tu es mon Créateur. Tu es le donateur de tous ces biens dont je dispose et dont je jouis. Tu es aussi, Seigneur, en effet, mon Sauveur. Mais je veux aujourd'hui que tu deviennes mon Seigneur, celui qui gère ma vie, celui qui gère mon cœur, mes pensées, mon esprit, mon âme, qui gère mes biens, qui gère tout simplement, eh bien, tout ce que tu as mis autour de moi pour que j'en jouisse, pour que j'en profite, certes, que je n'oublie personne, Seigneur, mais que je puisse aussi savoir te remercier. Oui, Jésus, merci pour ce que tu es, Seigneur, Sauveur et Seigneur de mon âme. Mais merci pour ce que tu fais. Alors, Seigneur, je n'oublie rien de tout cela. Et je te demande de bénir mes amis, de les bénir profondément. Parce que quelle méprise chez ce personnage de la parabole qui a confondu entre, tout simplement, les moyens d'existence et les buts de la vie. Seigneur, merci Jésus. Amen. Amen.